Chapitre 14. Tandis que Richard dégainait sa lame, Callan se pencha sur le côté pour ne pas être blessé. L'avertissement lancé par Tom et la note métallique de l'épée de vérité se répercutèrent dans les collines environnantes, et l'inquisitrice frissonna d'angoisse. Alors qu'elle sondait l'obscurité, son instinct lui souffla de saisir sa propre épée. Hélas, elle l'avait laissée dans le chariot pour mieux passer inaperçue et ne pas éveiller les soupçons. Dans l'ancien monde, les femmes ne portaient pas d'armes. À la lueur du feu, Callan distinguait clairement les traits de Richard. Depuis le jour où Zed avait remis l'épée au sourcier, elle l'avait vu dégainer l'arme un nombre incalculable de fois. Ce premier jour, par exemple, où il avait tiré maladroitement la lame de son fourreau. Puis, au cours de batailles terribles, ou encore, comme ce soir, avec la simple intention de se défendre. Quand Richard tirait au clair l'épée, il éveillait la magie qui lui était liée. C'était la particularité de cette lame. Son pouvoir n'existait pas seulement pour défendre son légitime propriétaire, mais pour être la projection et la prolongation de sa volonté. L'épée de vérité n'était pas un artefact magique en réalité, mais un outil mis au service du sourcier. La véritable arme était l'homme nommé sourcier par le premier sorcier. Cet élu maniait l'arme et la magie lui obéissait. Chaque fois que Richard avait dû brandir l'épée, Callan avait vu les reflets mortels de la magie danser dans ses yeux gris. C'était la première fois qu'il en allait autrement. Ce soir, elle voyait simplement le regard de Richard, le guerrier, pas le réceptacle d'une antique magie. La surprise de l'inquisitrice, quasiment de la stupéfaction, n'était rien à côté de celle du sourcier. Un instant, il hésita comme s'il ne savait plus qui il était. Avant que Richard et sa femme aient le temps de se demander pourquoi Tom avait crié, des ombres sortirent du couvert des arbres autour du camp et fondirent sur ses occupants. Ces agresseurs ne semblaient pas être des soldats, en tout cas ils ne portaient pas d'uniforme, et ils n'attaquaient pas en brandissant des armes comme l'auraient fait des militaires. Callan n'en vit aucun qui tenait une épée, une hache ou un couteau. Armés ou non, ils étaient nombreux et braillaient des cris de guerre qui ne permettaient pas de douter de leurs intentions. Ils étaient assoiffés de sang et entendaient le faire savoir. Les cris étaient une tactique classique pour effrayer l'ennemi. Callan avait été la première à y recourir lorsqu'elle lançait des assauts nocturnes sur le campement des soldats de l'ordre après le massacre d'Ebinitia. À l'approche du combat, une lame à la main, Richard était dans son élément. Concentré, déterminé, sans pitié, même si la magie de son arme lui faisait soudain défaut. Quand un attaquant le chargea, l'épée animée par la seule colère du sourcier fendit l'air et lança un éclair pourpre lorsqu'elle passa au-dessus des flammes du feu. À cet instant, Callan se demanda si la défection de la magie de l'épée n'allait pas leur coûter la vie. Richard se battait merveilleusement, mais le camp, si calme un instant plus tôt, était livré au chaos. Et même s'ils ne portaient pas d'uniforme, les attaquants étaient des colosses et ils prévoyaient de faire un carnage. Un agresseur plongea et tenta de bloquer les poignets de Richard pour l'empêcher de porter un nouveau coup. La lame s'abattit presque sans élan et lui trancha net le bras droit. Puis, elle lui ouvrit le crâne en deux. Du sang, des éclats d'eau et des lambeaux de matière cérébrale volèrent dans les airs. Un deuxième homme voulut sauter sur Richard. Très calmement, le sourcier lui enfonça son arme dans la poitrine. En quelques secondes, deux ennemis étaient morts. Et la magie faisait enfin briller les yeux de Richard. Soulagé, Callan s'intéressa de plus près aux attaquants. Que fichait-il donc? Ils n'avaient pas d'armes, certes, mais n'en paraissaient pas moins féroces. Leur nombre, leur taille, leur vitesse et leur expression haineuse avaient de quoi impressionner les défenseurs les plus aguerris. Mais à quoi rimait leur comportement? Voyant que le flot d'assaillants ne se tarissait pas, Kara se campa devant les tueurs, agit-elle au point. Quand elle commença de frapper, ses premières victimes poussèrent des hurlements qui incitèrent leurs camarades à plus de prudence, voire à une certaine hésitation. Couteau au poing, Sabar venait de faire tomber un des types sur le sol et le duel à mort continuait. Jensen dut s'écarter pour empêcher un homme de la saisir par les cheveux. Dans le même mouvement, elle ouvrit la joue de la brute d'un coup de couteau. L'homme hélas s'écria ceux de ses complices. Dans un demi-brouillard, Callan s'avisa que les blessés n'étaient pas les seuls à hurler. Terrifiés, tous les chevaux hennissaient follement. La gielle de Kara s'abattit sur la pomme d'Adam d'un type qui arracha un cri atroce. Les agresseurs se hurlaient des ordres ou des avertissements qui s'étranglaient dans leur gorge lorsque l'épée de Richard la leur ouvrait d'une oreille à l'autre. Tous les cris tournaient autour d'un seul thème, maîtriser les défenseurs. Du coup, Callan comprit enfin ce qui se passait. Ses attaquants ne cherchaient pas à tuer, mais à capturer. Comparé à ce qu'ils prévoyaient de faire à leurs victimes, la mort aurait été miséricordieuse. Deux colosses sautèrent par-dessus les flammes, les bras écartés, comme s'ils voulaient renverser Richard et Callan. Kara saisit un de ces salauds au vol par le pan de sa chemise, le força à pivoter sur lui-même et lui plaqua son agile sur le ventre. Fou de douleur, l'attaquant tomba à genoux. L'autre s'empala sur l'épée de Richard et mourut une demi-seconde avant son compagnon, que Kara venait d'achever d'un coup d'agile sec et précis dans la région du cœur. Sautant à son tour au-dessus des flammes, mais vers l'autre direction, Richard vint lui aussi se camper face au flot d'attaquants. D'un coup presque nonchalant, il coupa presque en deux l'adversaire de sa barre, qui prit le temps de le remercier d'un petit geste de la main. L'homme que Jensen avait blessé était revenu à l'assaut. La peur décuplant ses forces et son adresse, la sœur de Richard frappa de nouveau. La gorge tranchée, le type porta les mains à son cou pour tenter d'enrayer l'hémorragie. Transfiguré par la bataille, Kara était partout à la fois. Rapide comme l'éclair, elle frappa à la gorge un type qui tentait d'attaquer Jensen dans le dos. Tombant au sol avec son adversaire, elle l'acheva avant qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Des couteaux brillèrent soudain dans les mains des hommes qui entouraient Richard. Conscient qu'ils ne parviendraient pas à maîtriser un adversaire si formidable, ils avaient décidé de le larder de coups. L'apparition des couteaux eut surtout pour effet de décupler la fureur meurtrière du sourcier. Et désormais le pouvoir et la colère de l'épée de vérité combattaient avec lui. Une fraction de seconde, Callan fut hypnotisé par le spectacle qu'offrait Richard. Totalement concentré sur un objectif, défendre sa vie et celle des siens, il tuait avec une grâce qui avait quelque chose d'artistique. Une façon de danser avec la mort, comme il le disait lui-même. En face de tant de fluidité, les attaquants évoquaient irrésistiblement de gros taureaux lourds et maladroits. Avec une fabuleuse économie de mouvement, le sourcier se déplaçait au milieu d'eux comme s'ils avaient été des statues et chacun de ses coups portait. Dès qu'elle s'abattait, sa lame tranchait de la chair, déchiquetait des tendons et brisait des muscles. Chaque parade était suivie d'une contre-attaque mortelle. Richard ne ratait pas une ouverture, saisissant la moindre occasion de tromper la garde d'un adversaire. Quand il frappait, il ne manquait jamais sa cible, et pas un seul de ses coups ne blessait simplement un adversaire. Dans ce ballet parfaitement synchronisé, il n'y avait pas de place pour l'erreur, l'hésitation ou la pitié. Callan était furieuse de ne pas avoir son épée. Les attaquants étaient si nombreux que les voir lui faisait tourner la tête. Un jour, dans un autre pays, elle avait été encerclée par une bande de brutes chargées de la tuer. Il n'était pas question de revivre ça. L'inquisitrice commença de se rapprocher du chariot. Jensen et Sabar venaient d'être renversés par un colosse qui avait jailli des ténèbres. Dès qu'ils touchèrent le sol, leur agresseur s'écrasa sur eux, leur coupant le souffle. Combattant expérimenté, le type saisit le poignet droit de chacun de ses adversaires, immobilisant leur couteau. L'épée de Richard siffla le long du dos de l'homme, ravageant sa colonne vertébrale. Alors que le moribond se demandait encore ce qui lui arrivait, le sourcier se retourna, mit un genou en terre et embrocha un autre agresseur qui s'était imaginé pouvoir le frapper dans le dos. Une surprise infinie s'afficha sur le visage du type quand il s'empala sur l'épée de Richard. Tandis que Jensen et Sabar s'extrayaient de sous le cadavre de leur agresseur, Richard dégagea sa lame et se prépara à affronter un nouvel adversaire. Non loin de là, Kara abattit son agiel sur la gorge d'un énième colosse qui déboulait des ténèbres. Presque dans le même mouvement, elle défonça d'un coup de coude le nez d'un autre type qui avait tenté de l'attaquer par derrière pendant qu'elle était occupée. Indigné, la mort de Sith se retourna et flanqua un coup de genou dans l'entrejambe du fâcheux. Alors qu'il basculait en avant, les mains plaquées sur sa virilité malmenée, Kara lui écrasa la glotte d'un coup d'agiel. Puis, elle se débarrassa d'un troisième attaquant en lui plaquant son arme sur la poitrine. Un autre agresseur se jeta sur sa barre, qui vacilla sous l'impact, mais parvint à brandir son couteau à temps pour refroidir les ardeurs adverses. Profitant de l'ouverture, Un grand brin se baissa et ramassa la lettre de Nietzsche qui était restée abandonnée sur le sol. Callan plongea pour arracher la feuille de parchemin au voleur, mais il retira son bras à temps puis tenta de s'éloigner. Jensen vint lui barrer le chemin. Chargeant comme un taureau, l'homme l'écarta sans trop de mal, mais elle parvint à conserver son équilibre et lui enfonça sa lame entre les omoplates. Le type se débattit, mais la jeune femme continua à peser sur son arme, dont la pointe se fraya un chemin jusqu'au cœur de la brute. Foudroyé, peut-être incapable de croire qu'une faible femme avait eu raison de lui, l'homme tomba comme une masse, atterrit dans le feu et mourut avant de s'apercevoir que ses vêtements s'enflammaient. Callan essaya encore de lui arracher la lettre, mais elle dut y renoncer à cause de la chaleur des flammes. Le message de Nietzsche, que Richard et elle n'avaient pas lu en entier, s'embrasa, brûla comme de la paille sèche et se désintégra dans le poing serré du cadavre. Les narines agressées par l'odeur de la chair et des cheveux brûlés, Callan se plaqua une main sur le nez et la bouche, puis recula lentement. Même si elle aurait juré que le combat durait depuis des heures, il commençait à peine. Pourtant, il y avait des cadavres partout. Alors qu'elle repartait en direction du chariot où l'attendait son épée, l'inquisitrice leva les yeux et vit qu'une montagne d'hommes, les épaules larges comme celles d'un cheval de trait, lui barrait le chemin. Ravie de se trouver face à une femme désarmée, le type savourait d'avance une victoire facile. Callan aperçut Richard derrière le colosse et leurs regards se croisèrent. Le sourcier avait encaissé l'attaque de front, résolu à abattre les agresseurs avant qu'il puisse en prendre à ses amis. Mais nul n'avait la capacité d'être partout à la fois. À l'évidence, il était trop loin de sa femme pour intervenir à temps, mais cette constatation ne l'empêcha pas d'essayer. Callan ne se fit aucune illusion. Richard ne réussirait pas. Le regard rivé dans celui de l'homme qu'elle aimait plus que tout, elle eut dans ses yeux une incroyable fureur. Richard, lui, devait être face à un visage qui n'exprimait rien. Un masque d'inquisitrice, comme disait la mère de Callan, qui lui avait tout appris de son art. Le colosse avança encore, bloquant totalement la vue de Callan. Très calme, l'inquisitrice se concentra sur l'espèce d'ours fou furieux qui fondait sur elle à toute vitesse. Il ne voulait pas lui laisser l'ombre d'une chance de fuir, et ça tombait bien puisqu'elle n'en avait pas la moindre intention. Malgré son air bestial, cet homme était plus rusé que ses compagnons. Après avoir évité Jensen et sa barre, il s'était débrouillé pour échapper à la lame de Richard puis à la gielle de Kara. Contrairement aux autres, il ne s'était pas précipité tête basse vers la mort. Il avait un objectif, et il était sur le point de l'atteindre. Il n'était plus qu'à un pas de Callan. Le cri d'angoisse de Richard retentit une fraction de seconde avant que le colosse, un ignoble sourire dévoilant ses dents pourries, bondît sur sa proie. En un éclair, Callan enregistra d'étranges détails qui n'avaient rien à faire dans cette histoire. Le type avait une petite cicatrice au coin de la bouche, comme s'il s'était blessé alors qu'il se servait d'un couteau pour manger. Sous ses cheveux blonds crasseux, son œil gauche était à demi fermé et il manquait un gros morceau du lobe de son oreille droite. La forme de l'évidement, en V, rappela à Callan la façon dont certains fermiers marquaient leur porcelet. Alors qu'elle levait le bras droit, Callan vit son reflet dans les yeux noirs de l'homme. Un instant, elle se demanda s'il avait une épouse qui s'inquiétait pour lui et attendait impatiemment son retour. Avait-il des enfants? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'un homme tel que lui pouvait leur enseigner? Callan frissonna d'horreur en imaginant ce personnage répugnant vautré sur elle, ses lèvres gercées plaquées sur les siennes, ses mains crasseuses se glissant sous ses vêtements. Le temps se distordit. Callan tendit complètement le bras, et la poitrine de l'homme vint s'écraser contre sa paume ouverte. Les secondes s'allongèrent démesurément, donnant à l'inquisitrice le sentiment que rien de mal ne pouvait lui arriver. Non loin de là, Richard tentait toujours de la rejoindre. Devant elle, le colosse s'apprêtait à la renverser comme si elle avait été un vulgaire fétu de paille. Mais Callan dominait le temps, et le chasseur était devenu le gibier. Les bruits du combat, les cris, la puanteur du sang et de la sueur, les reflets de l'acier, les jurons et les grognements, la peur, la terreur, la stupéfaction et la fureur des agonisants. Tout cela cessa d'exister pour l'inquisitrice, soudain réfugiée dans un monde silencieux qui n'appartenait qu'à elle. Même si elle était née avec et le sentait en permanence dans le noyau de son être, le pouvoir de Callan lui paraissait la plupart du temps lointain, incompréhensible et étranger. Comme toujours, cela cesserait dès qu'elle relâcherait le contrôle qu'elle exerçait en permanence sur cette force dévastatrice. Alors, elle s'unirait à ce pouvoir, une osmose indescriptible qui la stupéfiait encore alors qu'elle avait recouru d'innombrables fois à sa magie. Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, l'évaluant froidement. Pendant qu'il courait vers elle, le temps lui appartenait. À présent, c'était l'inverse. Elle sentit le tissu grossier de sa chemise et dessous les poils qui couvraient sa poitrine. La surprise due à la violence de l'attaque avait disparu maintenant. Il n'y avait plus que Callan et cet homme, liés à jamais l'un à l'autre, par ce qui allait se produire. Ce type avait choisi son destin lorsqu'il avait décidé d'attaquer Callan. Pour faire ce qui lui restait à faire, la jeune femme n'avait nul besoin d'éprouver des émotions, et il n'y en avait aucune en elle. Pas de joie ni de soulagement, pas de haine ni d'aversion, aucune compassion, pas une ombre de tristesse. Callan s'était libéré de tout cela pour dégager le chemin au raz-de-marée de pouvoir qui montait du plus profond d'elle. Son adversaire n'avait plus une chance, il lui appartenait. Pour l'instant, il ne se doutait de rien. Étudiant sa proie, il se demandait comment il allait en jouir maintenant qu'elle faisait partie de son butin. Callan libéra son pouvoir. Lui obéissant, la force qui se tapissait en elle depuis sa naissance se transforma en une arme terrifiante capable d'altérer la conscience d'un être humain. Une ombre dansa dans les yeux de l'homme, comme s'il avait compris qu'un événement qui le dépassait venait de commencer et irait inexorablement jusqu'à son terme. Soudain, il sembla saisir que sa vie, telle qu'il l'avait connue jusque-là, était irrémédiablement terminée. Tout ce qu'il avait désiré, convoité, espéré obtenir ou voulu posséder, tout cela n'existait plus. Et c'en était fini aussi de tout ce qu'il avait aimé ou haï. Dans les yeux de Callan, il ne lut aucune pitié. Plus que tout le reste, cela le terrifia. Un coup de tonnerre silencieux fit vibrer l'air. Un pur moment de beauté et d'horreur. Un chant funèbre pour célébrer la fin d'une vie qui allait pourtant continuer. Pour Callan, le temps s'écoulait toujours au ralenti. Et elle eut tout loisir de voir s'afficher la défaite sur le visage de l'homme. La magie qui déferlait en lui faisait déjà des ravages dans son esprit, détruisant à tout jamais sa personnalité. La puissance de la déflagration silencieuse fit trembler jusqu'aux étoiles au cœur du firmament. Des étincelles jaillirent du feu et une colonne de poussière tourbillonna dans les airs. Secoués par l'onde de choc, les arbres se dépouillèrent de leurs épines ou de leurs feuilles. L'homme appartenait à Callan. Le temps ayant repris son cours, elle recula un peu sous l'impact, puis s'écarta et laissa sa victime emportée par son élan s'écraser sur le sol. L'homme se releva d'un bond, se mit à genoux et croisa les mains. Des larmes aux yeux, il gémit.
« Par pitié, maîtresse, donne-moi un ordre !»
Callan éprouva enfin une émotion pour la brute qui entrait dans une nouvelle phase de sa vie, du mépris.